Tounou Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. L'adolescence, on le sait, est parfois une période difficile à vivre. Elle correspond parfois à l'apparition de problèmes de santé mentale, notamment la dépression, la schizophrénie, les troubles bipolaires. Alors justement, que faire quand son adolescent va mal? Quand s'inquiéter? Que peuvent apporter les psychiatres? D'ailleurs, peuvent-ils prédire l'évolution des troubles mentaux? C'est ce qu'on va voir avec mon invité aujourd'hui, le docteur Leïla Benoît, qui est pédopsychiatre à la Maison des adolescents de Cochin. Elle vient de publier « L'adolescent fragile, peut-on prédire en psychiatrie ?» Psychiatrie, c'est un livre qui paraît aux éditions Recherche. Et bien sûr, si vous avez envie de participer, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Dans cette émission, nous aurons également au téléphone le docteur Lamine Fall, qui est chef du service de pédopsychiatrie à l'hôpital Fan de Dakar au Sénégal. Et on terminera en parlant de l'insuffisance cardiaque qui touche plus d'un million de personnes en France. Docteur Leïla Benoît, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Priorité Santé pour parler de ce sujet difficile d'une adolescence douloureuse avec un début de développement de maladie mentale et toutes les questions qui se posent autour de ça. Donc on comprend bien qu'on va parler d'une adolescence quand même particulière, pas simplement de l'adolescent qui va mal et qui fait sa crise d'ado. Vous dites dès le début que c'est à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte que les troubles psychiatriques en général sont diagnostiqués. Et la grande question qui se pose à chaque fois, est-ce qu'on aurait pu diagnostiquer plus tôt. C'est ça l'enjeu de la réflexion qu'on a aujourd'hui.
Tout à fait. C'est l'enjeu de cette réflexion, de pouvoir détecter plus vite, pour pouvoir aider plus vite les adolescents et leurs familles.
Et justement, est-ce qu'on arrive à savoir aujourd'hui si une intervention précoce permettrait de limiter l'évolution de la maladie ?
Alors, on a des résultats qui sont mitigés avec, certes, des interventions qui aident les jeunes et leurs parents à mieux comprendre une maladie grave, surtout à s'adapter en évitant d'utiliser des drogues qui pourraient aggraver la maladie, en soutenant le parcours scolaire pour permettre une intégration par la suite avec un métier et en apprenant certaines techniques de relaxation, de gestion du stress, de gestion du sommeil. Mais quelque part, la question qui est-ce qu'on pourrait éviter vraiment la survenue de la maladie, elle reste pour l'instant sans réponse ou avec des réponses assez décevantes.
Parce qu'en fait, c'est très compliqué dans les maladies psychiatriques, entre guillemets, il n'y a pas d'examen biologique qui permette de dire il y a ça qui va se développer ou pas.
Tout à fait. Pour l'instant, on n'a pas de certitude.
Il y a des recherches, ceci dit, sur cette question-là.
Il y a beaucoup de recherches qui ont commencé depuis les 20 dernières années, notamment avec des équipes australiennes et qui actuellement ont lieu tout autour du monde, y compris en France, avec des équipes qui souhaitent détecter plus vite, trouver des marqueurs, que ce soit l'image du cerveau, que ce soit une prise de sang, qui vont permettre de savoir si l'adolescent va développer une psychose en particulier.
Les premiers à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui tourne par an, ce sont les parents. À partir de quand faut-il consulter, s'inquiéter? Je dirais, qu'est-ce qui est du domaine de la crise d'ado classique et du domaine de la pathologie? On va beaucoup parler de schizophrénie, par exemple, quand même, aujourd'hui.
Tout à fait.
Si on prend cet exemple.
Alors, c'est une question qui est compliquée, à laquelle personne n'a de réponse, notamment pas les psychiatres, et c'est l'objet de ce livre. Il y a vraiment un continuum entre des problèmes d'un adolescent classique et des problèmes qui peuvent être les prémices d'une schizophrénie. Pour les parents, ce qui est important, c'est de suivre un peu leur instinct, leurs inquiétudes, et de pouvoir appeler un professionnel, faire la démarche de consulter s'ils s'inquiètent pour leur adolescent.
Quels sont les signes quand même qui doivent alerter les parents ?
Alors, ce sont d'abord des signes de troubles du fonctionnement social, donc le repli, le fait de moins voir ses amis, de peut-être décrocher un peu à l'école, de s'enfermer. Toutefois, ça peut être aussi
un passage... Aussi des signes d'une crise d'ado, oui, c'est
tout
ça.
Tout à fait, un passage à vide adolescent normal. Les parents doivent pouvoir être aidés et savoir, et c'est l'objet du livre, que les professionnels aussi se posent la même question, de pouvoir différencier ce qui est normal et ce qui ne l'est pas.
Comment ça se passe dans ces cas-là? Donc, des parents commencent à être inquiets pour leur ado, se disent non, il y a quelque chose qui tourne par an, ils prennent rendez-vous avec vous par exemple. Et comment se passe la consultation? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là?
Alors, c'est là qu'on a deux types de psychiatres différents, je dirais, en tout cas dans la controverse actuelle. Beaucoup en France qui vont dire, bah, on fait notre métier habituel, donc c'est on rencontre quelqu'un, on pose la question, on essaye de créer une relation avec cet adolescent et on fait confiance à notre sens clinique pour savoir si quelque chose nous inquiète plus que d'habitude, si cette rencontre, elle est en dehors de l'ordinaire des rencontres avec un adolescent et si on va surveiller cet adolescent de plus près. D'autres psychiatres, peut-être plus pragmatiques, disent certes, mais on sait que ce sens clinique finalement est très faillible, qu'il est parfois insuffisant, et on va essayer de s'aider de méthodes plus standardisées, des échelles, un certain nombre d'examens à faire passer aux jeunes, une batterie de tests, pour voir si effectivement il est à risque d'avoir une schizophrénie notamment.
On reviendra justement sur ces examens précis qui permettent justement de diagnostiquer le plus précocement possible. Je vous propose d'écouter le témoignage de Lucie qui a 23 ans. Elle a été diagnostiquée schizophrène à l'âge de 18 ans, donc relativement tôt finalement dans son parcours, après avoir fait une fugue à l'étranger où elle était partie seule. Charlie Dupiot l'a rencontrée chez elle.
La maladie, elle est survenue il y a environ 5 ans, un petit peu moins de 5 ans. En fait, en octobre 2012, donc j'étais au lycée, inscrite au lycée, en terminale, je suis partie en fait. Et j'ai pas prévenu mes parents que je partais, je les ai prévenus une fois que je suis arrivée. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai été hospitalisée durant 2 mois. Et c'est là qu'on m'a diagnostiquée. Et c'est là que j'ai commencé à prendre un traitement. Ça fait, on va dire, quasiment 5 ans que je suis sous traitement.
Mais du coup, les symptômes au début, c'était quoi ?
Les symptômes au début, voilà, moi je pensais que j'étais pas du tout atteinte de cette maladie. Je pouvais avoir des angoisses, etc. Mais c'est surtout une envie de liberté, l'impression d'être prisonnière, etc. Et les moments où j'étais mal, j'avais l'impression qu'on me faisait quelque chose qui faisait que j'étais mal, que ça venait de l'extérieur. La première idée, c'est ça. Et c'est plus tard qu'on m'a dit que c'était que j'étais atteinte de schizophrénie.
Et comment tu l'as vécu, ce diagnostic-là ?
En fait, quand on m'a dit que j'étais atteinte de schizophrénie, c'était passé un peu de temps. Donc c'est pas pareil que si on me l'avait annoncé directement, où là, ça aurait fait un choc brutal. Là, j'étais déjà suivie par un psychiatre, etc. Donc c'était un peu différent. Mais j'ai su au moins ce que j'avais et ce qu'on m'avait diagnostiqué. On avait mis un nom sur mon état, etc. Aujourd'hui, la maladie, elle se manifeste sous forme d'angoisse. J'ai des angoisses tous les jours. Voilà, tous les jours. Après, il y a des jours où j'ai moins d'angoisses que d'autres. Donc toute la journée, j'ai des angoisses. Donc il y a des moments où je vais bien, mais des moments où je suis très angoissée. Et ça peut venir d'un coup, et c'est à vivre, je trouve ça vraiment insupportable. Ça peut venir soit de l'extérieur, j'ai vu quelque chose, j'ai entendu quelque chose qui peut me créer une angoisse. Ou alors ça peut venir de quelque chose que je vais penser. Je vais essayer de trouver une réponse à une question, à quelque chose que je comprends pas. Donc je pense à plein de choses, les unes après les autres, sans savoir laquelle est vraie. Et ça peut durer jusqu'à 3 heures de suite.
Et tu sais à quelle fréquence ça t'arrive, ce type d'angoisse ?
C'est plusieurs fois par jour. Donc voilà, mais après il y a des jours où ça va mieux, des jours où ça va moins.
Comment ça se manifeste aussi autrement, la maladie ?
Ça peut être des pertes de mémoire à long terme, immédiates, comme à long terme sur ce qui s'est passé il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Enfin, j'ai vraiment des très grosses pertes de mémoire. Et c'est vrai que ça peut être handicapant pour moi. En fait, quand on perd la mémoire à long terme, on a envie de savoir ce qui s'est passé. Donc souvent, on s'imagine des choses. C'est pas toujours agréable parce qu'on aimerait se baser sur la réalité et non pas sur ce qu'on s'imagine.
Comment aujourd'hui tu vis avec la maladie ? Comment tu es traitée ?
Je suis traitée, donc je vois régulièrement les psychiatres. Je suis sous traitement, donc je prends 2 médicaments. Et en fait, je suis en phase de stabilisation. Je ne suis pas encore stabilisée. Le but, c'est ça pour l'instant. J'ai aussi une psychologue. Sinon, j'ai plusieurs activités qui m'aident aussi à aller mieux, etc.
Quoi comme activité, par exemple ?
J'aime bien voir des amis. Et sinon, voilà, j'essaie de sortir. J'ai 23 ans, j'ai eu mon bac. Maintenant, je cherche à pouvoir faire une formation, à me former davantage, etc. Ça prend du temps. Sinon, voilà, je prends des cours de hautbois, toujours, avec un professeur. Et ça fait maintenant longtemps que j'en joue, et en jouant un morceau qui nous porte, etc., ça nous fait penser à d'autres choses, ça diminue les angoisses, et pouvoir s'exprimer à travers un instrument, ça c'est vraiment très important, et ça peut faire du bien.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, je reçois le docteur Lélia Benoît, qui est pédopsychiatre à la Maison des adolescents de Cochin à Paris. Elle vient de publier « L'adolescent fragile, peut-on prédire en psychiatrie ?» Docteur Lélia Benoît, j'aimerais bien votre réaction à ce témoignage de Lucie. Diagnostiqué très jeune, parce que 18 ans, c'est considéré comme être diagnostiqué jeune.
Oui, tout à fait. La phase de survenue de la schizophrénie est plutôt entre 18 et 25 ans. Donc, elle a été effectivement diagnostiquée très jeune. C'est un très beau témoignage, je trouve, très riche avec cette jeune fille qui réussit à exprimer très clairement ses angoisses et sa manière de les gérer. Donc, ce qu'on peut voir au départ déjà, c'est que sa fugue peut être un comportement assez habituel, disons,
d'une crise d'ado
à l'adolescence. Mais néanmoins, chez elle, c'était le début de la survenue de ses angoisses. Là encore, tout le monde peut être angoissé par moments, mais c'est l'intensité peut-être de ses angoisses et la place qu'elles vont prendre dans sa vie qui vont en faire un handicap. Ce qu'elle montre aussi, cette jeune fille, c'est qu'elle réussit à avancer énormément. Elle réussit à faire ses études, à avoir des amis, à créer un bon lien avec son psychiatre. Là encore, c'est quelque chose que les psychiatres qui seraient plutôt un peu réticents par rapport au diagnostic trop précoce pourraient dire. Avoir un lien important avec son psychiatre, être en confiance, c'est quelque chose qui est indispensable pour ensuite accueillir ce diagnostic, l'accepter et puis vivre avec sans que ce soit une étiquette trop lourde à porter ou un stigmate.
Quelles sont les réticences justement de certains psychiatres à la détection précoce ? Ce qu'il faut bien expliquer que votre livre, en fait on ne l'a pas fait au début, il faut dire, c'est que vous êtes allé enquêter auprès de psychiatres du comment ils font face à ces adolescents dits fragiles. C'est-à-dire est-ce qu'ils posent un diagnostic assez rapidement ou pas du tout ? Quels sont leurs outils de diagnostic ? Donc ce livre c'est un peu justement comment les psychiatres en France pour l'instant gèrent justement toutes ces questions-là. Pourquoi il y en a qui sont réticents à cette détection précoce ?
Voilà. Ce livre part du constat, effectivement, que en France, les psychiatres acceptent particulièrement mal l'idée de détecter précocement avec des outils standardisés. Donc, face à ce constat, je suis allée enquêter. Et effectivement, les psychiatres ont peur, je pense, de susciter une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire, dire à un adolescent « vous êtes à risque de schizophrénie », dire « votre enfant est à risque de schizophrénie à des parents », c'est quelque part l'enfermer à un âge où il est en train de se construire, où il évolue, et où avoir l'image de soi-même comme quelqu'un qui souffre d'une maladie chronique, c'est quelque chose qui peut être enfermant.
Alors qu'on ne sait pas, en fait, à ce moment-là, comment va évoluer la maladie, et aussi bien, 4-5 ans plus tard, entre guillemets, il n'y aura plus rien. C'est ça ce que disent les psychiatres qui sont contre la détection précoce.
Tout à fait. Ces psychiatres pensent que si 4 ou 5 ans plus tard, il n'y a plus aucun problème, il n'y avait pas de raison de dire ça à ce jeune et à ses parents parce que c'est une source d'inquiétude.
Mais est-ce que ça arrive, ça, justement ? Qu'on ait un sentiment de se dire, là, il y a un jeune, où il démarre une schizophrénie, entre guillemets, et que 4-5 ans plus tard, il n'y ait plus rien ?
Oui, ça arrive. Ça arrive. Mais cependant, dire à ce moment-là qu'il n'y a pas du tout de schizophrénie ou qu'il n'y en a pas eu à un moment, c'est aussi avoir une vision très pessimiste de la schizophrénie. Parce que cette jeune fille, si vous et moi, nous la croisons dans la rue...
On ne voit pas du tout qu'elle est malade, en gros.
Non, absolument pas. Donc, pouvoir dire « il y a une schizophrénie, mais finalement, elle continue ses cours, elle a son bac, elle voit des amis, elle fait du hautbois », c'est peut-être dire, la schizophrénie, c'est pas si dramatique, et si on s'en occupe tôt, on peut aider ces jeunes à avoir une vie tout à fait normale.
C'est ça, on peut, entre guillemets, vivre normalement.
Voilà.
Et est-ce que ça voudrait dire aussi, donc, si des jeunes sont diagnostiqués schizophrènes à 18 ans, mais que finalement, en fait, après, il n'y a plus rien, est-ce que ça voudrait dire qu'on guérit de la schizophrénie ?
Là encore, on parle d'une maladie qui est assez compliquée, qui est très difficile à définir, même pour les psychiatres. Je veux dire, on n'a pas de preuves matérielles de l'existence de la schizophrénie. On sait que ça se passe dans le cerveau, mais voilà, c'est pas facile à définir. Et dans la définition de la schizophrénie historique, c'est une maladie qui est censée être chronique. Donc c'est une maladie qui dure à vie. Donc c'est comme si dans la définition même de la schizophrénie, on n'avait pas le droit de s'en sortir bien et d'avoir une vie normale avec.
Et alors, quels sont les instruments standardisés de diagnostic ?
Alors, il y en a plusieurs.
Qui permettent de se baser plus que sur une impression générale du patient.
Tout à fait. Alors, il y a avant tout des échelles, donc des questions que l'on pose aux jeunes et à sa famille pour savoir s'ils ont des idées plus ou moins bizarres, etc. Je ne vais pas vous la réciter.
Non, mais par exemple, une idée de question.
Ça pourrait être un peu comme ce que cette jeune fille dit. Est-ce que vous avez l'impression parfois que vous vous sentez mal, mais que c'est à cause de quelqu'un en dehors de vous ou que c'est à cause de votre environnement? Ça pourrait être une des questions. Voilà.
Donc, c'est un questionnaire. C'est ça?
Tout à fait.
Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil?
Donc avec un score, et en fonction du score, on est plus ou moins à risque, mais le score général n'est pas juste lié au questionnaire. Il y a d'autres mesures. Ça peut être évidemment une imagerie cérébrale. Il y a des tests aussi de fluence verbale, c'est-à-dire la manière dont on parle, voir si on a des difficultés d'élocution et de construction des phrases, parce qu'on se rend compte que c'est un des signes précoces de commencer à avoir du mal à former des phrases. Donc c'est un test qui est utilisé, notamment certaines équipes travaillent sur des détections informatisées à partir du récit de personnes.
Et ça, les psychiatres français sont un peu réticents à utiliser ces outils.
La majorité des psychiatres français, oui.
Même dans les jeunes qui arrivent?
Moins, puisqu'on a une formation qui est plus tournée vers l'international. Mais en France, les équipes qui s'intéressent de manière active à ces techniques sont assez restreintes.
Et quels sont les pays qui les utilisent principalement? Les pays anglo-saxons, entre autres, c'est ça? C'est là que ça s'est développé?
Oui. Alors, il faut remettre dans le contexte. C'est-à-dire que ça s'est beaucoup développé en Australie au début des années 90 avec l'idée, donc c'est l'équipe de Melbourne, du professeur McGorry notamment, qui souhaitait pouvoir accueillir des adolescents et des jeunes adultes en leur offrant des soins. Il faut savoir qu'en Australie, le système de santé n'est pas aussi protecteur qu'en France. Il n'y a pas de sécurité sociale qui permet un remboursement des soins a priori, quels que soient les soins. Donc l'enjeu pour ces équipes, c'était aussi de pouvoir financer des services pour accueillir des adolescents. Et pour ce faire, ils étaient obligés de prouver que leur activité avait un impact positif sur l'avenir de ces adolescents. Donc, ils ont accueilli plusieurs jeunes et ils les ont suivis pour voir si ceux qui étaient à risque d'avoir une schizophrénie développaient une schizophrénie ou non. Et ce qu'ils ont montré, entre autres, au bout de quelques années, c'est que leur score était intéressant, ils ont continué à l'améliorer, mais aussi que d'autres jeunes qui ne développaient pas une schizophrénie, mais qui allaient quand même mal, avaient une qualité de vie moindre. Et que donc, il fallait pouvoir aider l'ensemble de ces jeunes qui étaient à risque à pouvoir être mieux intégrés dans la société, à pouvoir être soutenus.
Et que les aider le plus tôt possible était rentable en termes d'évolution.
Tout à fait. Ouais. Il y a un enjeu économique derrière ces études.
Derrière tout ça, après, une fois que le diagnostic est posé, il y a toute la question de l'annonce de la maladie. Comment vous faites? C'est pas facile de dire à un jeune...
Tout à fait.
Vous êtes atteint de schizophrénie?
Alors, l'annonce de la maladie de schizophrénie, même chez des personnes qui sont plus âgées, est quelque chose auquel les psychiatres sont assez réticents. Il y a eu beaucoup d'études sur la question. Donc, annoncer un risque, c'est encore plus compliqué, on imagine.
Et du coup, les patients ont le sentiment de traîner 5 ans, 10 ans avant que le mot ne soit posé de schizophrénie.
Tout à fait. Ce qui vient quelque part alimenter le stigmate et le tabou sous la forme d'un cercle vicieux.
Là, vous faites comment, vous?
Alors, en pratique, moi, j'aurais plutôt tendance à expliquer mes inquiétudes et mes hypothèses. D'autres médecins font de même, il y a plusieurs manières de faire, mais c'est vrai qu'en pratique courante, je présente mes hypothèses aux personnes que je rencontre, que ce soit pour de l'autisme, de la schizophrénie.
Vous dites que vous allez chercher ça?
Je dis que je me pose la question et que peut-être j'ai tort. Et mais, qu'on va essayer.
Mais vous le dites à quel moment? Une fois que vous avez vu tous les scores, justement, que vous avez fait remplir tous ces questionnaires, ou même avant, quand vous allez commencer à faire remplir ces questionnaires?
En général, j'en parle avant, puisque quand on invite quelqu'un à aller remplir des questionnaires, ces questionnaires sont souvent faits dans des centres spécialisés. On ne peut pas tous les faire, c'est une batterie de tests. Donc, on ne peut pas envoyer une famille dans un centre spécialisé sans la prévenir de ce qu'on cherche.
Que c'est ça que vous cherchez. Donc, vous commencez par les prévenir de ce que vous cherchez, des différentes hypothèses. Et on verra dans la deuxième partie de l'émission, juste après les informations, comment vous annoncez le résultat. On se retrouve juste après les informations.
Priorité santé, Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, je reçois le docteur Lélia Benoît, qui est pédopsychiatre à la Maison des Adolescents de Cochin à Paris. Elle vient de publier « L'adolescent fragile, peut-on prédire en psychiatrie ?» C'est un livre qui paraît aux éditions Recherche. Un téléphone si vous souhaitez participer, le 33 1 84 22 75 75. Docteur Lélia Benoît, juste avant les informations, on parlait de la question du diagnostic et vous étiez en train de nous dire finalement quand vous recevez un jeune, vous évoquez avec lui les possibilités, ce que vous recherchez en disant voilà, je pense à une schizophrénie, mais peut-être que je me trompe, c'est pas forcément ça. Donc vous faites faire une entre guillemets une batterie de tests que vous nous avez développé dans la première partie. Puis à partir de là, vous faites quoi quand vous recevez tous les résultats?
Alors parfois, on ne sait pas plus. Voilà, et il faut faire avec. Néanmoins, c'est quelque chose d'autre de dire à la famille « Je me suis posé la question, je ne sais pas, vous ne savez pas. Peut-être que dans quelques temps, tout ira mieux et que ce sera un passage oublié. Mais j'ai été avec vous à ce moment-là. » Et je pense que c'est ce que les familles recherchent, et les patients aussi. Tout dépend de la manière dont on va dire les choses et de la manière dont on va les accompagner. Le pire, peut-être, c'est d'avoir le sentiment pour des parents de ne pas être entendus, que leurs inquiétudes ne sont pas entendues.
C'est-à-dire qu'on leur dit « c'est pas grave, c'est normal », alors que là, au moins, ils se disent « bon, il y a quand même quelque chose à faire ».
Et voilà, alors... où on ne leur dit rien, mais on reprend rendez-vous avec eux.
Oui, c'est ça, mais on ne dit rien, on ne sait pas. Alors, est-ce que ça, justement, et on voit des patients dont le diagnostic a été posé au bout d'une dizaine d'années, 5 ans, 10 ans, on dit souvent que c'est très long sur l'exemple de la schizophrénie. Est-ce que de ne pas prononcer le mot n'entretient pas le déni dans la famille?
Oui, sans doute, le déni dans la famille et puis l'inconfort des parents, des difficultés de communication entre le jeune et ses parents, puisque des choses qui sont du registre de symptômes, par exemple les angoisses de la jeune fille qu'on écoutait tout à l'heure, ces angoisses vont pouvoir l'empêcher de sortir, de travailler, de réussir
dans les études.
Et des parents vont pouvoir adopter une attitude très autoritaire par rapport à ça, ou la juger comme étant paresseuse, alors que finalement elle a surtout besoin d'être rassurée, d'être épaulée, d'être guidée, peut-être plus qu'un autre adolescent.
Et l'éternelle question, quand vous dites finalement, avec ces adolescents, on ne sait pas comment va évoluer la maladie, aussi bien, vous le dites, dans quelques années, il n'y aura plus rien. Est-ce que le fait d'être intervenu très tôt, d'avoir mis en place quand même un soutien psychologique, peut-être des traitements, peut permettre d'éviter l'évolution de la maladie? Est-ce qu'on arrive à le savoir, ça, ou pas?
Alors, les cohortes...
Parce que c'est la question de fond, finalement.
Oui, tout à fait. Les études montrent que, il faut savoir une chose, le traitement médicamenteux n'est absolument pas la panacée. Ça, c'est quelque chose qu'il faut répéter, puisque c'est une des grandes craintes des psychiatres, c'est qu'en parlant plus vite de la schizophrénie, on donne plus de médicaments et que finalement, les jeunes le vivent mal. On le sait maintenant par les études qui ont été montrées, c'est que le médicament n'aide pas plus. Néanmoins... on imagine, et dans les cohortes c'est montré aussi, que tout ce qui peut être fait pour aider le jeune par ailleurs, lui éviter de prendre des drogues, l'aider à gérer son stress, l'accompagner avec des exercices pour entraîner sa mémoire. On a bien vu que cette jeune fille parle de difficultés de mémoire. Voilà, tout ça, c'est en fait les choses qui vont lui permettre, en définitive, de réussir son examen, de réussir à se présenter le jour J face à un employeur, d'avoir un métier, et puis d'être suffisamment épanoui dans sa vie pour avancer.
Cette deuxième fois dans l'émission que vous dites éviter de prendre des drogues, pourquoi particulièrement sur ces adolescents fragiles?
Alors, il est connu que le cannabis est une drogue qui est beaucoup consommée par
des jeunes,
chez les jeunes en général, et encore plus chez les jeunes qui sont angoissés. Que cette angoisse soit liée à du stress, à un mal-être, à une dépression ou à une schizophrénie, le cannabis a pour effet de calmer au départ l'angoisse et finalement d'obtenir des effets rebonds 2 jours plus tard.
Encore pire.
Donc, chez ces jeunes en particulier, ça a un effet de cercle vicieux qui est absolument dramatique. Donc, pouvoir en parler, c'est dire « on sait pourquoi tu prends ça », parce que ça te détend sur le moment. Néanmoins, il faut vraiment l'éviter puisque... au final, ça va aggraver tes problèmes.
On a au téléphone le docteur Lamine Fall, qui est chef du service de pédopsychiatrie à l'hôpital Fann à Dakar, au Sénégal. Docteur Lamine Fall, bonjour.
Bonjour.
À quel âge les patients atteints de schizophrénie arrivent-ils en consultation? Est-ce qu'ils arrivent relativement tôt ou plutôt assez tardivement?
Oui, il faut dire qu'actuellement, ils arrivent de plus en plus tôt. Disons, dès le collège, on commence à avoir les débuts donc, d'entrée dans la schizo, ou comme le disait notre collègue tout à l'heure, des situations en tout cas à risque, on ne sait pas encore comment ça va évoluer, mais on sent quand même le risque de
Et ça veut dire que les patients viennent vous, les parents viennent vous voir quand ils commencent à s'inquiéter?
Oui, je crois que c'est déjà surtout l'école qui s'inquiète parce que c'est quelquefois des résultats scolaires qui basculent de façon dramatique. C'est quelquefois aussi des troubles du comportement, disons au niveau scolaire ou familial qui commencent à déranger. Donc c'est le voisinage qui suspecte quelquefois des modifications, qui alerte. Il peut y avoir selon les familles un certain retard, mais disons relativement, c'est beaucoup moins qu'avant. Vous voyez surtout en début de l'âge adulte.
Aujourd'hui, c'est ça, il vous arrive un peu plus tôt. Et comment cette question de la détection précoce se pose-t-elle au Sénégal? On a vu qu'en France, il y avait une certaine réticence à ça, une peur de la stigmatisation, de mettre l'enfant du coup dans un carcan. Est-ce que la question se pose de la même manière au Sénégal ou pas?
Je crois que la stigmatisation reste encore une question cruciale, plus largement pour tout ce qui est psychiatrie. Disons, les populations ont tendance encore à distinguer psychiatrie et psychologie. Certains préfèrent encore un peu se barricader un peu derrière.
On ne veut pas aller voir le psychiatre.
Mais je peux aller voir le psychiatre.
Attends, je voudrais faire réagir le docteur Lélia Benoît sur cette question de la peur du psychiatre. Elle reste encore présente, honnêtement.
Ah oui, tout à fait. Oui, le psychiatre fait peur, la psychiatrie fait peur, puisque tout ce qui touche à la folie ou à ce qu'on imagine être la folie nous fait courir le risque d'en être contaminé, finalement.
Oui, c'est ça, on a toujours peur d'une contagion, alors voilà. Qu'on sait bien que ça l'est pas. Donc c'est cette ça. Peur, elle est toujours présente et c'est ça qui empêche de temps en temps de venir vous voir, non? C'est un obstacle.
Oui, sans doute, la peur de la psychiatrie. Néanmoins, les services qu'on a, qui sont ouverts aux adolescents, sont de plus en plus agréables. Et l'enjeu pour nous, et vraiment c'est l'enjeu à la Maison de Solène, c'est d'avoir un service qui est ouvert à tous les adolescents. On vient d'abord en fonction de son âge et pas en fonction d'une maladie. Et comme on l'a vu, beaucoup d'adolescents ont certaines angoisses qui ne mèneront à aucun trouble mental grave.
C'est ça, aucune maladie grave. Mais cette peur du psychiatre, enfin du psychiatre et des maladies psychiatriques contribue à la stigmatisation dont sont victimes ces patients quand même.
Tout à fait, puisqu'on ne fait ensuite reconnaître comme étant malade que les gens qui vont extrêmement mal, et on oublie de parler de tous ceux qui vont bien, alors qu'aux États-Unis, le mouvement des patients qui ont réussi à s'en sortir, ce qu'on appelle le mouvement du recovery, des gens qui vont mieux, milite beaucoup plus activement pour que la maladie mentale soit reconnue comme un handicap, certes, mais qui n'empêche pas de vivre tout à fait
normalement, comme on disait tout à l'heure. Docteur Lamine Fall, donc je vous posais la question de savoir si cette question de la détection précoce se pose de la même manière au Sénégal qu'en France.
Non, pas tout à fait.
Donc, et vous ne disiez pas tout à fait, sauf cette peur du psychiatre.
Oui, pour nous c'est important, effectivement, pour toutes les maladies qu'on soigne en psychiatrie, nous préconisons la détection précoce et la prévention autant que possible. Fois les populations ne sont pas encore suffisamment sensibilisées. Il faut dire qu'en ville, il y a de plus en plus de sensibilisation et les gens voyagent beaucoup, donc il y a beaucoup de mouvements de population qui font les aussi des détections précoces.
La ligne téléphonique est vraiment très mauvaise, docteur Lamine Fall. On a de plus en plus de mal à vous entendre. Il ne faut pas bouger.
Ça passe mieux.
Ouais, ça passe pas très bien. On a quand même beaucoup de mal à vous entendre. Alors, ça veut dire de ce que vous nous disiez que donc ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que vous utilisez vous du coup les instruments standardisés de diagnostic.
Non, pas du tout. Nous avons surtout la clinique. Hein. Donc, oui. C'est actuellement essentiellement la clinique, avec bien sûr les anamnèses et les facteurs de risque qu'on connaît bien. Sinon, nous suivons beaucoup plus les patients, effectivement, à risque, disons, en tout cas.
Et pourquoi vous n'utilisez pas ces instruments de diagnostic standardisés?
Disons, il y a le fait, souvent, la question se pose parmi nos collègues de la validité, dans le contexte de ces outils-là qui ne sont pas toujours...
Donc, il y a un peu la même réticence qu'en France.
Oui.
Une réaction par rapport à ça, docteur Lélia Benoît.
Oui, je voulais juste préciser que, effectivement, en France, l'immense majorité des psychiatres se fondent sur la clinique et sur des facteurs de risque, et que les centres experts qui proposent ces batteries de tests sont extrêmement réduits. À Paris, il y en a un ou deux, notamment à l'hôpital Sainte-Anne, mais ils tendent à augmenter, mais de manière vraiment très, très sporadique.
Et contrairement aux autres pays, entre autres les pays anglo-saxons, mais pas que, c'est ça ?
Les pays anglo-saxons, en Allemagne aussi, il y en a plus, mais c'est peut-être aussi un rapport à la preuve, au fait de regarder des choses, de vérifier, de cocher des questionnaires, qui n'est pas le même qu'en France, de manière générale.
Oui, tout à fait. Docteur Lamine-Fall, juste une dernière question. Quelles sont les difficultés pour vous au quotidien sur ces maladies psychiatriques lourdes chez les jeunes, entre autres la schizophrénie, sur la prise en charge?
Oui, j'ai dit sur vos ordres, je crois que le principal problème, c'est le manque de structure. J'ai eu la chance de visiter la maison de Solène, je crois qu'effectivement il s'agit là de déstigmatiser, de proposer des espaces pour les jeunes qui sont beaucoup moins stigmatisants, où on peut effectivement retrouver tout type de jeunes qui peuvent trouver des réponses à leurs questions et qui peuvent aussi être là, rencontrer, faire les bonnes rencontres qui pourront peut-être les remettre sur le bon chemin. Donc je pense que c'est une chance d'avoir des centres comme les maisons de Seine, la maison de Seine à Paris. Et ici, on ne peut pas faire ça pour le moment, mais je crois que c'est déjà l'idée de mettre en place disons des structures spécialisées, disons qui accueillent des adolescents plus spécifiquement et de façon...
C'est ça, vous aimeriez créer des maisons des adolescents?
Nous aimerions bien avoir des structures spécifiquement d'adolescents, parce que l'adolescent n'est pas encore reconnu spécifiquement dans ses particularités, à mon avis, pas suffisamment en tout cas, par rapport notamment aux aspects psychologiques, aux aspects de l'adolescence qu'on distingue.
Docteur Lélia Benoît, vous vouliez réagir?
Oui, effectivement, même en Australie, chez le professeur McGorry, on s'est aperçu que la même démarche a eu lieu, c'est-à-dire que en ayant conçu au départ des services pour détecter la schizophrénie précocement, finalement, ces équipes se sont aussi aperçues qu'il fallait privilégier un cadre qui soit ouvert aux jeunes et qui soit accueillant. Et finalement, petit à petit, eux aussi évoluent vers cette démarche de créer des maisons des adolescents et des maisons des jeunes adultes où l'on puisse, quels que soient nos problèmes, se rendre et être accompagné. Après, c'est une chose différente de passer les tests tout de même, faire la batterie d'examen, ou de ne simplement pas les faire. Mais l'enjeu d'avoir un lieu d'accueil qui soit ouvert à tous est très important. L'enjeu par ailleurs en France est que ces centres, les maisons des adolescents, sont des centres qui sont plus anciens. On avait une séparation de la psychiatrie de l'enfant et de la psychiatrie de l'adulte qui est plus ancienne. Le gros problème pour les jeunes à l'heure actuelle, c'est qu'à 18 ans en France, ils sont souvent amenés à passer de la psychiatrie de l'enfant à la psychiatrie de l'adulte sans qu'il y ait de centre spécialisé pour couvrir la période de 15 à 25 ans. Or, on sait que les jeunes étudient plus longtemps, ont plus de mal à rentrer sur le marché de l'emploi, restent chez leurs parents, et que finalement, toute cette phase de transition de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, si on considère que l'âge adulte, c'est avoir un emploi, quitter chez ses parents et être indépendant sur le plan identitaire et affectif, toute cette phase-là se prolonge et on a à ce moment-là aucun service qui est vraiment spécialisé pour accompagner les jeunes.
Et alors, pourtant, c'est ce qui se fait à la maison des adolescents, parce que c'est ouvert justement jusqu'à 25 ans, en gros, c'est ça ?
Jusqu'à 21 ans.
Jusqu'à 21
ans. Et c'est pour des jeunes qui sont arrivés avant l'âge de 18 ans. C'est-à-dire que jusqu'à 18 ans, on peut consulter. Et puis, à partir de là, on suit ceux qu'on avait déjà rencontrés.
Et alors, j'imagine que particulièrement sur ces pathologies-là, c'est compliqué à partir de 18 ans, d'aller voir, de changer de médecin, par exemple. Parce que c'est ça que ça veut dire, passer dans les services adultes, ça veut dire changer de médecin.
Oui, ça veut dire changer de médecin, ça veut dire changer d'équipe, et puis ça veut dire s'intéresser à d'autres choses, d'autres étapes de la vie. Les centres d'adultes s'occupent beaucoup plus de personnes qui sont beaucoup plus âgées, qui ont 40, 50 ans, 60 ans, qui ont d'autres problèmes. Mais finalement, toute la phase d'insertion sociale et professionnelle, c'est une phase où il faudrait pouvoir accompagner le jeune. La jeune fille qu'on entend actuellement, qui a eu son bac à 23 ans, ce qui est quand même un petit peu plus tard que les autres, on peut se dire... Qu'en est-il ? Est-ce qu'elle a été suivie par les mêmes médecins et la même équipe entre 18 et 23 ans ou est-ce qu'elle a dû changer ? Est-ce que si elle avait été suivie par les mêmes personnes, est-ce que ça lui aurait permis peut-être de réussir son examen plus tôt et d'être accompagnée sur une orientation à l'issue ? Voilà, se dire qu'il faut peut-être décorréler un petit peu l'âge de l'insertion puisqu'on est avec des jeunes qui auront besoin d'un peu plus de temps.
Merci beaucoup docteur Lamine Fall. Je rappelle que vous êtes chef du service de pédopsychiatrie à l'hôpital Fane à Dakar au Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, je reçois le docteur Leïla Benoît, qui est pédopsychiatre à la Maison des adolescents de Cochin à Paris. Elle vient de publier « L'adolescent fragile, peut-on prédire en psychiatrie ?» Je voudrais revenir justement sur cette question du peut-on prédire en psychiatrie ? On a vu la difficulté de poser un diagnostic, mais il y a aussi la difficulté après de faire un pronostic sur l'évolution de la maladie. Sur ces maladies-là, entre autres la schizophrénie, c'est particulièrement compliqué.
Tout à fait. Le pronostic est très variable, hein, on le sait en médecine, il est très individuel. Mais la question de prédire un pronostic, c'est aussi peut-être faire le pari que malgré la maladie, on pourra aller bien. Et je sors du champ de la schizophrénie pour vous parler quelques instants du champ de l'autisme. Actuellement, un des enjeux aussi pour les parents d'enfants avec des troubles du spectre autistique, c'est que l'on puisse parler plus vite du problème, mais que néanmoins, ça n'enferme pas leur enfant. Pour les enfants avec autisme, on parle de bébés jusqu'à des gens qui sont adultes. Pour la schizophrénie, ça commence plus tard, à l'adolescence. Mais à chaque fois, l'enjeu est le même. C'est d'avoir un médecin en face qui dise « Oui, on se pose cette question, on a cette hypothèse, on va mettre en place des choses. » Et souvent, c'est pas un médicament miracle, c'est plutôt des exercices, un accompagnement, une école particulière, un petit peu plus de temps pour avancer. Mais parce qu'on sait que ça pourra aller bien au final.
Et alors justement, je vous entends beaucoup parler de troubles schizophréniques, parce que ça permet de ne pas étiqueter et de pas dire « c'est une schizophrénie ».
La schizophrénie, effectivement, c'est un mot qui recouvre des réalités extrêmement diverses. Et on a tendance de plus en plus à parler de troubles pour rendre compte des différentes réalités, de la diversité de cet éventail.
Et donc, pour revenir à cette question, est-ce qu'on peut prédire en psychiatrie ? La réponse, c'est quoi ? C'est non, en fait. On a énormément de mal à dire comment va évoluer la maladie chez un patient.
Oui, je pense que la réponse est non, quelque part, et c'est aussi la raison pour laquelle tous les collègues que j'ai interrogés sont si prudents et si réticents peut-être à en parler. C'est parce qu'ils savent bien, ce n'est pas que de la mauvaise volonté, c'est ils savent bien que c'est très difficile de prédire et qu'on a beaucoup plus de chances de se tromper que d'avoir raison.
Et donc, quelle est l'évolution aujourd'hui de la psychiatrie ? Vous avez commencé à nous le dire, les jeunes psychiatres qui sont formés sont plus formés à ces tests de diagnostic. Est-ce qu'il y a une évolution justement dans la prise en charge ? Avec une volonté de poser un diagnostic plus tôt, de prendre en charge plus tôt sans enfermer.
Alors, je pense que la psychiatrie est traversée par une évolution qui touche toute la médecine, à savoir qu'on a une médecine qui est de plus en plus préventive et qui est de plus en plus basée sur les risques. Avec l'idée effectivement de détecter plus tôt, mais aussi, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir un rapport au patient et à sa famille qui est beaucoup plus direct et de pouvoir dire oui, on se pose cette question, peut-être que l'on se trompe. À la fois, c'est un avantage puisque on peut dire on fait plus confiance aux gens, on leur parle directement. Au même temps, certaines personnes peuvent le critiquer à juste titre en disant qu'on surresponsabilise aussi les familles et les patients. En disant vous êtes à risque d'avoir un trouble mental, c'est aussi dire maintenant à vous de vous en débrouiller, d'avoir une hygiène de vie parfaite, de ne plus jamais faire de faux pas parce que sinon on vous aura prévenu. Donc ça c'est quelque chose qui est aussi dans l'évolution de la relation entre les médecins et leurs patients, quand on sait plus de choses, on est plus responsable, on est plus responsabilisé aussi.
Mais du coup, à vous entendre, je me dis, mais il doit y avoir des énormes différences de prise en charge suivant sur quel psychiatre on tombe, entre guillemets.
Tout à fait, selon sur quel psychiatre on tombe et aussi selon quelle famille on est. Puisque les médecins ont beaucoup tendance à s'appuyer sur ce qu'ils imaginent que la famille pourra comprendre. Donc des parents qui vont être très informés, qui vont dire « Docteur, j'ai regardé sur Internet », qui vont poser des questions, ça va être plus facile de discuter avec eux. Encore une fois, le problème de cette volonté d'information, c'est que des familles qui ont beaucoup de mal à comprendre déjà la langue française ou le système de santé, ou même à se saisir des options thérapeutiques qu'on leur propose, vont peut-être être en difficulté si demain on est dans un système unique, où l'enjeu sera d'informer les gens, de leur dire l'hypothèse c'est ça, et débrouillez-vous avec.
On arrive à la fin de cette émission, la conclusion de ce livre c'est quoi? C'est quand même de dire qu'il faut que la psychiatrie en France évolue? Je l'entends comme ça, en tout cas, moi, en le lisant.
Oui, je pense que la psychiatrie doit rendre des comptes sur son travail, sur la manière dont elle avance. Et ce livre est aussi un appel à contribution de la part des familles, puisque on voit ici, dans ce livre, les inquiétudes des psychiatres, leur travail quotidien, ce qu'ils imaginent être bon pour les gens qu'ils suivent, et ils essayent de bien faire. Et on manque de témoignages de familles, on manque de retours pour savoir en face qu'est-ce que c'est d'avoir attendu pendant des années qu'on puisse parler de la schizophrénie, mais qu'est-ce que ça peut être aussi d'avoir eu un jeune à qui on a dit « vous avez une schizophrénie » et qui finalement, quelques années plus tard, n'a absolument rien. Donc c'est cet aspect qui nous
manque. Ça va être la suite de votre travail, c'est ça ?
Peut-être, ou peut-être que d'autres le feront.
Merci Lélia Benoît. Je rappelle que vous avez donc publié « L'adolescent fragile, peut-on prédire en psychiatrie ?» Et on va terminer en parlant de l'insuffisance cardiaque.
Priorité santé sur RFI.
Et pour terminer, nous faisons donc le point sur l'insuffisance cardiaque qui touche plus d'un million de personnes en France. Professeur Thibaut Damy, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes responsable d'une unité d'insuffisance cardiaque, amylose au CHU Henri Mondor à Créteil. Qu'est-ce que cette insuffisance cardiaque qu'on appelle donc aussi amylose ?
Alors, je suis également donc le président du groupe français des insuffisances cardiaques de la Société française de cardiologie. C'est à ce titre que je vous parle aujourd'hui. Et l'insuffisance cardiaque, en fait, c'est la fatigue du cœur. C'est-à-dire que le cœur n'a plus la capacité de pomper le sang dans l'ensemble de l'organisme et d'apporter en fait les nutriments et l'oxygène aux organes pour qu'ils fonctionnent correctement.
Et quelle est la fréquence au niveau mondial? J'ai donné un chiffre en France hein, que vous donnez, la Fédération de cardiologie, sur un million de personnes touchées en France. Est-ce qu'on a une idée dans le monde?
Alors, dans le monde, il y a 25 millions de patients insuffisants cardiaques. En Europe, il y en a 15 millions. Et sur ce million, en fait, que l'on a en France, on sait que ce chiffre est sous-estimé. Et on a récemment fait une enquête qui montrerait qu'il y a deux fois plus de patients insuffisants cardiaques, en fait, que ce million.
Donc beaucoup plus fréquent que ce qu'on imagine.
Tout à fait.
Et quelles sont les conséquences sur le cœur de cette insuffisance?
Alors, l'insuffisance cardiaque, c'est le cœur qui est fatigué. Donc, les conséquences, en fait, sur le cœur, c'est que le cœur ne marche plus correctement, mais c'est surtout les conséquences qui vont l'être pour les patients. Les patients vont être extrêmement essoufflés et donc ne vont plus pouvoir faire leurs actions dans la vie quotidienne, monter des marches, marcher en côte, aller faire leurs courses. Ils vont avoir une rétention hydrosodée, une rétention d'eau et de sel qui va les faire gonfler, avec des prises de poids qui peuvent aller de 10 à 15 kilos et qui sont source bien sûr d'aggravation de leur état clinique et vont être extrêmement fatigués. En bref, ils ont un acronyme qu'on appelle EPOF, essoufflement, prise de poids, œdème et fatigue.
Et quels sont les moyens de diagnostic?
Alors les moyens de diagnostic, c'est bien sûr, quand on a ces symptômes, essoufflement, prise de poids, œdème et fatigue, c'est de consulter un médecin ou un cardiologue, afin de réaliser bien sûr un examen clinique, un interrogatoire, un électrocardiogramme. Et maintenant, on peut utiliser un test de dépistage, qui est une prise de sang, qui permet de mesurer en fait un marqueur qui est directement corrélé au niveau de fatigue du cœur. Et grâce à ça, donc, vous voyez, on peut dépister l'insuffisance cardiaque, et puis après, on va aller rechercher la cause par d'autres examens. Et l'examen principal, c'est l'échocardiographie.
Et alors, à partir de là, quels sont les traitements?
Alors, les traitements ont beaucoup évolué ces 20 dernières années et nous évoluons encore. Il y a des traitements qui sont médicamenteux, Donc on a 5 à 6 molécules qui permettent d'améliorer considérablement la survie des patients et la qualité de vie en ayant des actions directement sur le cœur et également sur l'organisme. Et on a la possibilité également d'implanter des matériels électriques qu'on appelle pacemakers ou défibrillateurs pour améliorer la fonction cardiaque en resynchronisant l'activité cardiaque et également prévenir des accélérations du cœur ou quand le cœur s'emballe, envoyer un choc électrique, ce qu'on appelle défibrillateur. Et ces thérapies associées à une hygiène de vie alimentaire très importante avec une restriction, une diminution des apports en sel, ainsi qu'à une activité physique un petit peu majorée par rapport à ce qu'un insuffisance cardiaque peut faire, on peut considérablement améliorer la qualité de vie et la survie des patients.
Et alors, ce que vous voulez aujourd'hui faire avec la Société française de cardiologie, c'est donc alerter sur cette pathologie pour que les patients consultent plus tôt, c'est ça votre idée ?
Tout à fait. C'est qu'en fait, lors de l'enquête qu'on appelait étude EPOF sur cet acronyme, on s'est rendu compte qu'il y avait probablement le double de patients insuffisants cardiaques en France qui n'étaient pas dépistés. Et sur cette population générale, 2,4% de la population avait ces 4 signes. Et malheureusement, 64% des patients, enfin des sujets interrogés qui avaient ces signes, n'avaient pas consulté de cardiologue dans l'année. Autrement dit, beaucoup de patients ont ces symptômes et donc ne vont pas chez le médecin et donc bien sûr arrivent trop tard ou dans un état beaucoup trop grave pour pouvoir être correctement traités. Alors il y a un retard de la prise en charge alors qu'ils ont déjà les symptômes.
Et alors que des traitements existent, exactement. Merci beaucoup, professeur Thibaut Damy. Vous viendrez un jour nous parler plus longuement de cette insuffisance cardiaque. Bonne journée à tous et à demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.